Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
Aujourd'hui, nous retrouvons une constellation du zodiaque. Plus visible l'hiver dans l'hémisphère nord, c'est la constellation du Taureau. On la repère grâce à la très brillante Aldébaran. Aldébaran que l'on repère en suivant la ceinture d'Orion vers l'ouest. Elle fait partie d'un petit V, assez simple à repérer avec les étoiles des Hyades, un amas ouvert très proche du système solaire. Ce V représente la tête du Taureau et Aldébaran en est l'œil. Au nord de ce V, vous trouverez les cornes du Taureau. Deux étoiles moins brillantes, mais visibles tout de même au pied des Gémeaux. L'une est proche d'Orion, il s'agit d'Elnat, et l'autre est presque confondue avec la constellation du Cocher. À l'ouest d'Aldébaran, vous trouverez un magnifique objet céleste, les Pléiades. C'est l'amas ouvert le plus visible à l'œil nu. Étant une constellation du zodiaque, la constellation du Taureau est très ancienne. Dans la mythologie grecque, le Taureau pourrait être la forme bovine utilisée par Zeus dans son aventure avec Europe. Europe, c'est la fille d'Agénor, le roi de Phénicie. Elle jouait un jour sur le bord de la mer avec ses compagnes, et Zeus, épris d'amour pour elle, se changea en taureau. Il s'approcha d'elle, mangea dans sa main, et lui donna telle confiance qu'elle osa monter sur son dos. Mais à peine y fut-elle assise, que le taureau prit sa course vers la mer, se jeta dans les flots et se mit à nager pour la transporter en Crète, où il la viola et la rendit mère de Minos, qui deviendra plus tard le roi de l'île de Crète. Dans d'autres traditions mythologiques, la constellation du taureau est en rapport avec Minos, justement. Minos qui est devenu roi de Crète grâce à Poséidon, en échange de la promesse d'un sacrifice d'un superbe taureau tout blanc. Mais Minos a sacrifié une autre bête. Alors, vexé, Poséidon rendit la femme de Minos amoureuse d'un taureau. De leur union naîtra le Minotaure, créature mi-homme, mi-taureau d'une férocité incroyable. Il devra être enfermé dans un labyrinthe par Minos. Situé au centre de la Crète, ce labyrinthe a été construit spécialement par l'architecte Dédale, afin que le Minotaure ne puisse s'en échapper, et que nul ne découvre son existence. Tous les 9 ans, Égée, le roi d'Athènes, sera contraint de livrer 7 garçons et 7 filles au Minotaure, qui se nourrira de cette chair humaine. Thésée, le fils d'Égée, se portera volontaire pour aller dans le labyrinthe et tuer le monstre. Il y parviendra grâce à l'affection et à l'aide d'Ariane, la fille de Minos. Ariane est en effet tombée amoureuse de Thésée, et pour l'aider à sortir vivant du labyrinthe, elle lui donna une pelote de fil que Thésée accrocha au début du labyrinthe et qu'il déroula derrière lui. Il put ensuite remonter le fil d'Ariane pour retrouver son chemin. La constellation du Taureau contient entre autres 2 amas d'étoiles, les Hyades et les Pléiades. Ils sont tous les deux suffisamment lumineux pour être clairement visibles à l'œil nu. Les Hyades sont distantes d'environ 150 années-lumière, ce qui en fait l'amas le plus proche du système solaire. Il est constitué de 300 à 400 étoiles, partageant des caractéristiques communes telles que l'âge ou la composition chimique. Les 4 membres les plus brillants de l'amas sont toutes des géantes rouges. Elles se nomment, selon la désignation de Bayer, gamma, delta, epsilon et theta tauri. Elles forment un astérisme en forme de V, qui représente la tête de la constellation du Taureau, couvrant à peu près 4 degrés. Aldébaran, l'étoile la plus brillante du Taureau, fait partie de cet astérisme. Il représente l'œil du Taureau. Mais, curieusement, Aldébaran ne fait pas partie de l'amas. Il est en effet situé 2 fois plus près de nous que l'amas. Cet amas est un des rares qu'il est préférable d'observer aux jumelles plutôt qu'au télescope, compte tenu de sa surface. En effet, la surface du ciel couverte par les jumelles est bien supérieure à celle couverte par un télescope, du fait de leur ouverture. Et compte tenu de la surface des Hyades, on ne peut pas voir tout l'amas dans l'oculaire du télescope. La luminosité des étoiles fait aussi que des jumelles sont suffisantes pour les observer. C'est grâce aux Hyades qu'on a eu la première validation de la théorie de la relativité générale d'Einstein. En effet, selon la relativité générale, une étoile visible à proximité du Soleil devrait apparaître dans une position légèrement différente parce que sa lumière est légèrement déviée par l'action de gravitation exercée par la masse du Soleil. Alors, évidemment, ce n'est pas possible d'observer une étoile proche du Soleil, puisque la luminosité du Soleil nous masque les étoiles. Donc, en général, ce phénomène de déviation de la lumière n'est pas observable. Sauf à quelques moments très rares, qui sont les éclipses totales de Soleil. Pendant une éclipse totale de Soleil, la lumière de l'étoile est bien déviée par le Soleil, mais l'obscurité générée par l'éclipse nous permet de l'observer. Donc, c'est lors de l'éclipse totale de soleil du 29 mai 1919 que l'astronome Arthur Eddington prouva à partir de clichés photographiques que la position des Hyades était légèrement décalée par rapport à leur position habituelle et que donc la trajectoire des rayons était légèrement déviée par rapport au soleil. Ce qui valide ainsi, par l'observation, la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein. Alors, comment se forment ces amas ouverts ? On pense qu'ils se forment au sein de nuages moléculaires, des grands nuages de gaz et de poussière qui constituent les nébuleuses diffuses. Comme le temps nécessaire à leur formation est beaucoup plus faible que leur durée de vie, toutes les étoiles d'un amas ouvert ont plus ou moins le même âge. Et comme elles proviennent de la même nébuleuse, elles ont toutes plus ou moins la même composition chimique. Ainsi, les seules différences existant entre les étoiles d'un amas ouvert proviennent de leur masse. La plupart des amas ouverts sont dominés par des étoiles géantes bleues, qui sont très lumineuses mais de courte durée. On peut ainsi estimer l'âge d'un amas ouvert en regardant le rapport entre le nombre d'étoiles bleues, jaunes et rouges. Plus les étoiles bleues sont nombreuses, plus l'amas est jeune. Les étoiles d'un amas ouvert sont initialement très proches les unes des autres et se déplacent à la même vitesse autour du centre de la galaxie. Après environ 1,5 milliard d'années, un amas ouvert classique, tel que les Pléiades ou les Hyades, tend à être perturbé par des facteurs externes, tels que des nuages moléculaires passant à proximité, donnant des vitesses légèrement différentes aux étoiles, qui dérivent de plus en plus. Quand ceci se produit, l'amas devient alors un courant d'étoiles, qui ne sont plus assez proches pour former un amas ouvert, mais qui se déplacent toutes dans une même direction, à des vitesses à peu près semblables. Un courant d'étoiles très connu, c'est la Grande Ourse. En effet, la plupart des étoiles qui composent ce célèbre astérisme sont les membres d'un vieil amas ouvert, mobile, presque entièrement dispersé. Sirius est un ancien membre de cet amas, et le Soleil est actuellement dans le courant de la Grande Ourse. Mais le Soleil, lui, n'est pas un vrai membre, il passe juste à travers. Et après environ 1 milliard d'années, l'amas a totalement disparu, les étoiles l'ayant constitué ayant été dispersées par la rotation de la galaxie, comme pour l'amas auquel appartenait le Soleil. Les Pléiades, également notées M45, sont probablement l'amas le plus connu. En fait, on peut distinguer à l'œil nu 6 à 12 étoiles distinctes, parmi les 500 qui le composent. L'amas est distant de 380 années-lumière. En fait, c'est un astérisme observé depuis très longtemps. Comme le souligne Waldorf Schosser, professeur d'astronomie à l'université de la Ruhr, les prêtres et les chamans du néolithique accordaient une extrême importance à cet amas ouvert, puisque son apparition marquait dans tout l'hémisphère nord le début des moissons. Une représentation picturale de cet amas de 7 points se retrouve aussi sur le disque de Nebra, daté de début de l'âge du bronze, c'est-à-dire 1600 ans avant Jésus-Christ. La constellation des Pléiades est également citée dans de nombreuses cultures et religions. Elle apparaît dans l'Odyssée d'Homère et à 3 reprises dans la Bible. Les Pléiades sont depuis l'Antiquité associées à l'agriculture, puisqu'en plus de marquer le début de l'été par son lever, son coucher, lui, annonce l'hiver, en Europe tout du moins, car l'apparition des Pléiades en hiver est l'occasion d'une fête au sud-ouest de l'Inde, connue en tamoul sous le nom de Fête des lampes à l'huile. Cette fête célèbre la naissance du dieu Kartikeya. En Polynésie, l'apparition des Pléiades vers le 20 novembre annonce de façon ancestrale la saison de l'abondance, en célébrant l'entrée de la nature dans une période faste. Cet amas est l'un des seuls visibles à l'œil nu. On distingue rapidement 5 étoiles, puis au fur et à mesure que l'œil s'accommode, d'autres étoiles apparaissent. Ainsi, jusqu'à 10-11 étoiles sont visibles si les conditions météo sont bonnes. Avec des jumelles ou avec un télescope à champ large, on peut observer bien plus d'étoiles. Et c'est de cette manière que l'amas donne le plus de satisfaction. On dénombre aujourd'hui dans cet amas environ 3000 étoiles. Sa densité est donc relativement faible par rapport à d'autres amas ouverts. Finissons l'observation de la constellation du Taureau par un vestige stellaire. C'est la nébuleuse du Crabe, qui est un rémanent de supernova, résultant de l'explosion d'une étoile massive en supernova au début du deuxième millénaire. La nébuleuse du Crabe a été observée pour la première fois en 1731 par John Bevis. Elle est redécouverte indépendamment en 1758 par Charles Messier, qui est alors à la recherche de la comète de Halley, dont la réapparition devait se produire cette année-là dans cette région du ciel. Réalisant qu'il n'avait en réalité pas observé la comète recherchée, Messier a alors l'idée de réaliser un catalogue des nébuleuses brillantes pour limiter les risques de confusion entre celles-ci et les comètes. En effet, à cette époque, la recherche de comètes était un loisir très couru. Et pour éviter les erreurs entre les objets diffus et les comètes, Messier va établir un catalogue complet d'une centaine d'objets qui ne sont pas des étoiles, mais qui ne sont pas non plus des comètes. Au début du XXe siècle, l'analyse des premières photographies de la nébuleuse du Crabe, prise à quelques années d'intervalle, révèle son expansion. Le calcul de la vitesse d'expansion permet alors de déduire que la nébuleuse s'est formée à peu près 900 ans plus tôt. Les recherches menées dans des récits historiques ont permis d'établir qu'une nouvelle étoile suffisamment lumineuse pour être visible le jour fut observée dans cette même portion du ciel par les astronomes chinois, japonais et arabes en 1054. Étant donné sa grande distance et son caractère éphémère, cette nouvelle étoile, ou étoile invitée selon la terminologie asiatique, était en fait une supernova. Une étoile massive qui, à la fin de sa vie, après avoir épuisé tout son carburant en quelque sorte, subit une formidable explosion et se disperse dans l'espace en un nuage de matière, de gaz et de poussière que l'on appelle alors rémanent de supernova. L'analyse récente de ces textes historiques a montré que la supernova à l'origine de la nébuleuse du Crabe apparut probablement en avril ou début mai 1054, atteignant une magnitude apparente maximale comprise entre -5 et -3 en juillet 1054. Elle était alors plus lumineuse que tous les autres objets du ciel nocturne, à l'exception de la Lune. L'événement est noté dans les recueils chinois où l'étoile est nommée « étoile invitée ». Pendant 23 jours, elle resta suffisamment lumineuse pour être visible en plein jour. La supernova fut observable à l'œil nu pendant environ 2 ans après sa première observation. Grâce aux observations mentionnées dans les textes d'astronomie orientaux, en 1054, la nébuleuse du Crabe est donc le premier objet astronomique dont le lien avec une explosion de supernova a pu être établi. Un pont établi entre deux époques de notre humanité distant de plus de 1000 ans, tout ça grâce aux étoiles.